notre invitée qui vient nous rejoindre, Adeline Dieudonné.
Bonjour.
Elle a pour son roman, premier roman à 36 ans, et ça fait un carton. Vous avez failli avoir le Goncourt, le Renaudot. Bon, vous ne l'avez pas eu, mais, mais c'est un... votre livre est dans les best-sellers, des critiques dithyrambiques. Et vous êtes belge en plus.
En plus.
Et vous êtes très jolie en plus.
En plus. T'as
regardé Laurent Barra à côté qui fait oui.
Vous avez entendu ce que j'ai dit dans la... Bah voilà, je suis célibataire. Voilà.
Alors Adeline Dieudonné, comment vous vivez ce succès incroyable de votre roman ?
Eh ben, je le vis très bien. Très bien, c'est merveilleux. Voilà, on s'attendait pas du tout à un succès pareil. Voilà, j'écris pour moi, enfin de mon côté, en disant.
Il paraît que votre éditrice n'avait pas arrêté de sabler le champagne tout le temps, parce qu'à chaque fois il se passait des trucs incroyables sur ce livre.
Ah oui, on dessoule pas là depuis début septembre.
C'est génial, invitez-nous.
À chaque fois, vous fêtez quand vous avez. Alors, il va être traduit dans combien de langues ce roman, La Vraie Vie ?
Je crois qu'on est à 11 langues pour l'instant.
Pour un premier roman.
Oui.
Vous n'aviez jamais pensé écrire, en fait ?
Non, j'avais fait quelques tentatives d'écriture de scénario de film, mais le cinéma, c'est hyper compliqué.
Vous allez adapter celui-ci ?
Voilà. C'est bien possible.
Et vous étiez comédienne au départ, et vous dites que vous êtes une comédienne ratée ?
Oui, en fait, j'étais une comédienne non pratiquante, parce que j'ai fait des enfants assez jeunes, et puis bah, il faut les nourrir, ces petits trucs-là.
Vous avez fait des enfants à quel âge ?
Ma première, j'avais 24 ans.
Et donc, du coup, vous passiez des castings ou vous prenez pas ?
Oui, je passais des castings, des auditions. Bah, de temps en temps, on me prenait, mais pas assez souvent pour pouvoir.
Vous passiez des castings en Belgique ou en France ?
Plutôt en Belgique. J'ai vécu un an à Paris et puis je suis vite rentrée à Bruxelles.
Parce que c'était trop dur.
C'était super dur, oui.
Maintenant, à Paris, tout le monde vous ouvre les portes, tout le monde vous adore, non ?
Ah, là, maintenant, tout va bien, oui.
Ouais. Et ça, comment vous vivez cette différence de regard chez les gens, Adeline Dieudonné ?
On le savoure d'autant mieux quand on a passé des années à galérer et que ça a été difficile. Donc,
donc vous avez des enfants jeunes, vous avez renoncé à être comédienne, vous avez travaillé dans un cabinet d'architecte.
Vous êtes vraiment très bien renseignée.
Et après, vous regardez Laurent Barra qui
bosse pour moi. Elle se renseigne.
Elle enquête.
Parce que lui aussi, c'est un comédien raté, vous avez des points communs. Vous avez plein de choses à vous dire.
Mais lui, il n'a pas encore écrit de livre, c'est ça.
Je suis en train d'en écrire.
Il en est à la préface depuis 8 ans.
Ouais. Mais vous n'avez pas beaucoup d'écart d'âge, 36 et 40 ans, c'est vrai que ça
c'est
va.
Vrai. C'est vrai.
C'est vrai. Puis on voit bien le contraste blond-brun. Là, c'est très fade. Mais
bon, où est le curé ?
Vous avez mis combien de temps à écrire ce bouquin, Adeline Dieudonné ?
9 mois pour la première version.
Combien d'heures par jour ?
Bah ça dépend, mais en général c'était très tôt le matin avant d'aller travailler, parce que j'avais quand même toujours deux enfants à nourrir et en plus un divorce. Et puis il y a des périodes où voilà, j'avais moins de boulot et j'ai pu me consacrer un petit peu plus, mais j'écris rarement plus de 5-6 heures par jour.
Et vous écrivez en écoutant du métal ?
Oui.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah, ça plaît moins à Laurent Barra.
Par contre, il faut qu'on s'arrange pour que je sois pas là quand vous bossez, hein, parce que c'est plutôt classique. Moi,
c'est comment le métal a dû
je vais te faire découvrir.
Oh, tout de suite, toi !
Bien sûr, bien sûr.
Vous étiez vraiment sur les listes du Goncourt, du Renaudot et du Goncourt des lycéens, et vous avez quand même eu le Renaudot des lycéens.
Ce qui est incroyable.
Oui, oui, ce qui est un prix magnifique. Le prix des lycéens, c'est extraordinaire.
Est-ce que, comme une bande-annonce de cinéma, on pourrait savoir de quoi parle ce livre, La Vraie Vie ?
Mais bien sûr. Donc c'est une histoire qui se passe dans un lotissement gris, assez moche, dans une famille pas très fréquentable. Il y a un papa qui est un gros prédateur, chasseur de grand gibier, braconnier. Une maman que la petite fille qualifie d'amibe parce qu'elle est complètement inexistante, elle s'efface sous les coups de son mari. Et puis deux enfants, la petite narratrice qui a 10 ans au début de l'histoire et son petit frère Gilles qui a 6 ans. Et ces deux petits, la vie se passe relativement bien malgré le papa violent. Il joue dans les bois et tout va bien jusqu'au jour où il va survenir un terrible accident, la première année du récit, qui va traumatiser ses deux enfants. Et après, ce sera le combat de cette petite fille pour faire retrouver le sourire à son petit frère et pour le récupérer parce qu'il va mal tourner.
Mais quand on vous voit si jolie, si blonde, si apaisée, apaisante, on a du mal à imaginer que vous avez tous ces monstres dans votre tête.
Ah, mais c'est
la Belgique, ça. Vous êtes déjà allée à Bruxelles, Anne.
Non, mais c'est peut-être justement parce que je les ai tous jetés dans mon livre, ça me permet d'aller bien. Il y a un côté très cathartique dans une écriture comme ça.
Vous êtes très angoissée, vous, dans la vie.
Moi aussi.
Ah, il est revenu, lui. Ah, ça va. Montre-lui ta fiche de paye, elle va être rassurée. Tu vois.
Demande à Anne qu'elle lui montre. Hein.
Il y a des très belles phrases, en fait, dans ce livre. Moi, je trouve... Si vous permettez que je cite des extraits.
Mais bien sûr.
La principale fonction de ma mère était de préparer les repas, ce qu'elle faisait comme une abîme, sans créativité, sans goût, avec beaucoup de mayonnaise.
On parle du Thermomix, toujours.
Des croque-monsieur, des pêches au thon, des œufs mimosa et du poisson pané avec de la purée moussine, principalement. Elle vous parlait de votre frère, Gilles. Je l'aimais d'une tendresse de mère. Je le guidais, je lui expliquais tout ce que je savais. C'était ma mission de grande sœur, la forme d'amour la plus pure qui puisse exister. Un amour qui n'attend rien en retour, un amour indestructible. Il riait tout le temps avec ses petites dents de lait. Et chaque fois, son rire me réchauffait comme une mini centrale électrique. Ça m'a émue. Vous avez eu un frère à Dîner-Dîner ?
J'ai deux frères, j'ai deux petits frères. Et oui, je crois que le plus jeune de mes deux frères a 13 ans de moins que moi. Donc je crois que j'avais un peu cet amour-là pour lui, déjà
mais,
un amour
lui,
de petite
maman.
Mais lui,
quand il a lu le livre, il n'a pas eu peur que vous l'imaginiez en psychopathe ?
Ça l'a beaucoup fait rire.
Ça l'a fait rire ?
Oui, oui, oui. Et je crois que le plus drôle, c'est ma maman. Quand elle a terminé le livre, elle m'a dit « Mais les gens vont croire que tu as eu une enfance horrible.
» Et les hommes, du coup, vous regardent plus qu'avant.
Qui ça ?
Tu vas pas être jaloux alors que vous êtes pas encore ensemble.
Comment ? Je suis du Sud, vous savez, je suis un peu bouillant. Donc, comment ça, quoi ?
Non, non, au contraire, j'ai l'impression que ça leur fait un peu peur. Peut-être. Ouais,
ah, c'est le livre qui leur fait peur.
Ouais, peut-être. Voilà.
Mais c'est le talent chez les femmes, ça fait peur aux hommes.
Ouais, aux hommes qui n'ont pas de talent.
Ouais.
Mais ceux qui ont du talent, ça leur fait pas peur. Il est complètement inconscient, ce garçon.
Il doute de rien, ah, tu doutes de rien.
Mais non, parce qu'on écrit des brèves, vous savez, puis à un moment donné, je suis allé un peu dans le dramaturge, mais bon, voilà, c'est pas du tout désespéré, c'est Anne qui exagère un petit peu.
Voilà, vous en êtes à combien d'exemplaires à Ligne Donnée de la vraie vie ?
Je sais pas, j'ai perdu le compte, là, mais on était à 150 000, je crois.
C'est énorme.
150 000 sorties des stocks, hein.
Plus les traductions à venir dans toutes les langues. 11 langues pour l'instant.
11 langues, dont l'anglais, ce qui est extraordinaire, parce que l'anglais, c'est très rare, en fait, pour un auteur francophone d'être traduit en anglais.
Ça n'a pas été trop dur à traduire, The True Life.
Oui, exactement. The Real Life.
The Real Life. The Real Life.
Même pour si peu, pour être planté.
Même là, même sur un mot. Bam.
C'est pas grave, c'est pas moi qui vais le traduire. Alors, il paraît, à Digne de Donner, vous avez aussi un seul en scène qui s'appelle...
Bonobo Moussaka.
Vous parlez de quoi ? Des hommes, du couple, des relations ? Regardez.
C'est exactement là. Moi aussi, j'ai un seul en scène et je parle un peu de tout ce truc-là. Voilà. Ah, continuez, allez-y.
Oui, je parle des hommes, du couple et aussi beaucoup d'économie, d'écologie... Je questionne.
Voilà, vous êtes très écolo, elle est très écolo. Vous
moi aussi, des poubelle bleue, poubelle rose, poubelle verte.
Poubelle rose.
Elle a dit.
Adèle Donner fait des choses pires que ça. Quand elle va au cinéma avec ses enfants, elle amène des sacs à elle pour mettre les pop-corn.
Ah c'est oui, pas d'accord. Vrai, moi pareil.
Je pensais que j'étais un cas à part.
Mais... c'est ça. Voilà, ben ouais, voilà. Vous pouvez rappeler le titre de votre seule en scène ?
Bonobo Moussaka.
Et c'est pourquoi ce nom-là ?
Alors, il faut voir le spectacle hein, pour comprendre. Mais en gros, j'explique un moment la sexualité des adolescents et je dis que les garçons sont comme des bonobos en rut et que les filles aussi, sauf qu'on le cache mieux qu'eux parce qu'on est censé cacher notre désir sexuel parce que nous, on est censé se respecter. C'est une idée complètement absurde. Et donc
à la place, on se fait une bonne moussaka.
Et donc nos pulsions sexuelles, on les enferme, on les cadenasse bien dans un petit Tupperware comme une moussaka. Ah. On est des bonobos déguisés en moussaka.
Donc c'est un seul en scène qui fait rire quand même ou...
Qui fait rire quand même, mais
pas seulement.
Pas seulement. Et c'est pour ça que j'aime pas dire One Woman Show parce que c'est pas un spectacle d'humour, même si on rigole beaucoup. Oui, oui.
Pareil que
le mien. Je suis en train de réfléchir vraiment. Moi j'essaye vraiment d'injecter de la profondeur et tout. Faudra qu'on discute après. On a la même sensibilité artistique. Les gens pensent que c'est de la déconne.
C'est votre genre d'homme.
Vous n'êtes pas obligé de répondre.
Non,
ça va jeter.
Elle n'est pas venue comme ça.
On peut dire non.
Non, mais c'est
tout,
gênant. Ça va être gênant là. Non, mais moi, j'avais besoin quand même de faire ça.
Adeline Dieudonné, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Alors, un deuxième roman, l'adaptation de celui-là au cinéma, jouer votre spectacle à Paris ?
Oui, que les choses continuent comme elles sont en train de se passer, c'est déjà pas mal.
Ben, merci Adeline Dieudonné d'être passée nous voir. De ce matin, triple champion du monde de salsa, chorégraphe, juré de danse avec les stars. Il nous racontera comment ses tympans résistent depuis tant d'années au cri du caribou de son complice Jean-Marc Généreux et comment il n'a pas sombré dans la dépression après avoir vu danser Vincent Moscato. Merci d'applaudir Chris Marquez qui est avec nous.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Bonjour Chris. Patrice Marquez.
Mais c'est génial l'énergie dans le studio.
Ah bah oui, nous on danse tout le temps.
On adore.
Alors vous avez une vie assez incroyable, Chris Marquez.
Oh, je ne sais pas si elle est incroyable, mais en tout cas je m'amuse beaucoup, effectivement.
Vous êtes né dans un milieu modeste, à Colmar, papa oui. portugais, maman espagnole.
Absolument.
Et à 13 ans, vous prenez un cours de danse parce que votre frère avait du succès avec les filles, avec les cours de danse, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. C'est ce qui m'a fait craquer pour la danse d'ailleurs. Je me suis dit, bon, si mon petit frère... Il y a 4 ans de moins de moi quand même à l'époque, était constamment entouré de filles.
Ah, c'était le petit frère.
Ouais, c'était mon petit frère en plus. Ouais. Oui, moi à 13 ans, il fallait vraiment que je me mette à la danse. Et quelque chose de magique s'est passé en fait, c'est que je prends mon premier cours de danse et une demi-heure après, je me rends compte que voilà, ça, en fait, c'était quelque chose qui était en moi, qui me manquait d'ailleurs. Je ne le savais pas, mais ça me manquait. Et je n'ai plus jamais eu un seul jour sans danse dans ma vie en fait depuis.
Et puis alors, à 17 ans, vous quittez l'Est parce que vous allez dans une école de danse à Villeurbanne, c'est ça?
Absolument, c'était la plus grande école de danse dans le domaine des danses de couple à l'époque en France. Et donc je pars à 17 ans et le pacte avec mes parents était très simple. Tu dois obtenir ton bac et tu dois bien travailler à l'école. Et donc je suis parti.
Et vous avez obtenu le bac.
Oui, absolument.
Et alors après, vous travaillez dans l'informatique et en un an, vous devenez directeur marketing de la boîte.
Directeur marketing et surtout, en fait, un an et demi... 6 mois après ça, je deviens le directeur du commerce électronique. Parce qu'en fait, j'ai une chance qui est assez incroyable. C'est qu'en fait, si on me met un livre devant les yeux, j'arrive à apprendre et comprendre des concepts assez rapidement. Et donc, voilà, il me fallait un boulot pour payer la danse, justement, et un boulot qui payait bien.
Maman, vous étiez tellement doué qu'on vous a proposé de partir aux États-Unis dans l'informatique. Vous avez refusé pour faire la danse.
Absolument. En fait, on m'a proposé un pont d'or incroyable pour partir à Silicon Valley. J'étais déjà publié pour mes opinions, justement, sur le commerce électronique à l'époque, aux États-Unis. Et donc, voilà, on m'offre un pont d'or. Et le jour où on m'offre ce deal, je me dis, si ça ne m'excite pas, c'est que vraiment, c'est pas fait pour moi.
Des millions? Non, je préfère danser à Villeurbanne.
C'est mieux. Parce que on n'est pas loin de la folie du moment, quand même. C'est vrai.
Parce qu'à un moment, vous avez quand même beaucoup galéré. Vous mangez des pâtes. Enfin, ça n'a pas été facile, quand même.
Les pâtes.
C'est super bon, les pâtes.
Mais un peu comme tout danseur, on va dire, en début de carrière, c'est comme ça. On en était pas malheureux, attention. Hein. Mais c'est vrai que...
Vous parlez, vous dites « on » parce que vous étiez déjà avec votre femme.
Oui, ça fait 20 ans que je suis avec...
Vous avez 40 ans, ça fait 20 ans que vous êtes avec elle.
Absolument. Et
elle est la chorégraphe de ce spectacle au Casino de Paris.
Absolument. Jacqueline Spencer.
Alors ce spectacle, Alors on danse, c'est un premier spectacle au monde en réalité augmentée. Donc il y a les danseurs de danse avec les stars, des chanteurs et des guests aussi. Expliquez-nous.
Alors on a certains danseurs, on a Christophe Licata et Coralie Licata, son épouse, qui sont avec nous sur le spectacle. Ensuite on est allé trier un cast de danseurs.
Et vous êtes sur scène aussi?
On va être également sur scène. Au départ, c'était pas censé l'être, mais ça nous démange et donc on va également danser un petit peu dans le spectacle, Jacqueline et moi. Et donc c'est un spectacle dans lequel il y a donc 10 danseurs, il y a 2 chanteurs qui chantent en live tous les soirs. Toute la bande son a été réorchestrée, rejouée en studio. On a également des guests qui viennent nous rejoindre, des copains, Sandrine Quétier qui vient chanter. On a Laurent Mestret qui vient danser. On a également Tatiana Silva, Héloïse Martin. Et donc ils viennent nous présenter 2 danses inédites dans la soirée. Et ce qui est génial, c'est que sur ce spectacle, effectivement, c'est une première mondiale parce qu'en fin de compte, on ne trouvait pas comment le décrire. Et à l'étranger, on appelle ça de mixed reality, de la réalité augmentée en français.
Spectacle de mixed reality.
Bonjour.
Je vais voir alors on danse mixed reality au Casino de Paris,
voilà,
le 3 mai 2019. Dites-le en anglais, vous qui êtes bilingue.
Mixed reality on the 3rd of May at the Casino de Paris.
Yeah. Et en portugais.
Realidade misturada no Casino de Paris no 3 de maio.
Se eu fosse ele, tudo bem.
Chris Marquez, quand on vous voit avec votre houppette dans Danse avec les Stars, on dirait un petit trublion, mais en fait, moi, j'ai été hallucinée. Vous êtes directeur artistique de Danse avec les Stars, ça se voit pas, en fait.
J'étais le directeur artistique.
Ah, ils vous ont viré.
Non, j'ai eu la chance de faire de la saison 1 à la saison 7, si je ne me trompe. Et pendant cette période-là, justement, on a mis en place des innovations technologiques assez incroyables. C'est-à-dire que je partais à l'étranger, à Londres, par exemple, présenter à toutes les équipes de production au monde les innovations technologiques qu'on a apportées en France et artistiques, bien sûr. Et ça pouvait se présenter comme tout ce qui était mapping, tout ce qui était.
On
ne
croirait pas quand
etc.
on voit avec votre houppette sautillant comme ça que vous savez faire tout ça.
Vous voyez, là,
ça.
Vous avez dit mapping, elle a fait semblant de comprendre.
Si, je sais ce que c'est que le mapping, c'est un espèce de projection qu'on comprend.
On comprend rien.
Super résumé.
C'est avec des éclairages et voilà. c'est des formes avec des éclairages, ouais. C'est ça?
C'est de la projection sur des volumes.
Je présente Jean-Philippe Vigny qui adore votre émission Danse avec les Stars.
Oui, ah. Oui, non, mais en fait, on a fait une soirée Danse avec les Stars à la maison et ça s'est pas trop mal passé.
Parce que avec ma femme, alors en fait, on a l'habitude de refaire les émissions qu'on voit à la télé entre nous à la maison avec nos amis ou les voisins, vous voyez. Par exemple, on a fait Pékin Express entre amis. Alors, bien sûr, on n'est pas allé jusqu'à Pékin, hein. Nous, on est allé jusqu'à la Grande Motte. Alors, le jeu, c'était, nous, les adultes, on va jusqu'à la Grande Motte en voiture et les enfants doivent nous rejoindre par leurs propres moyens. Et ben, on a passé des vacances super. On a récupéré les gosses au retour, ils n'avaient même pas dépassé Rambouillet. Mais les vacances super. On a aussi fait cauchemar en cuisine entre amis. Parce qu'on a une voisine qui cuisine mal. Alors on est tous allés manger chez elle et on lui a gueulé dessus toute la soirée. Parce que sa bouffe était toute pourrie. Du coup, ensuite, on a fait le divan de Fogiel avec la voisine qui, à cause de nous, est en dépression. Et là, dernièrement, on a organisé Danse avec les stars entre amis à la maison. C'était la catastrophe. Déjà, on a fait les équipes. Tout le monde voulait être une star. Il nous fallait un jury. J'ai dit à mon voisin Philippe, tu vas faire le jury. Il me dit, bah pourquoi moi? Je dis, bah t'es le seul qui sort chez le coiffeur. Tu ressembles à Chris Marquez. Et ben voilà, ça t'apprendra de coiffer comme un footballeur. Bien fait pour toi. Allez, c'est parti. On a poussé le canapé. Première danse, salsa acrobatique. Là, j'ai ouvert le bal avec la voisine. On a voulu faire comme dans Dirty Dancing. Vous savez, elle a pris de l'élan. Elle a sauté sur moi. Moi, je l'ai porté à bout de bras. Mais bon, la voisine, elle reprend toujours deux fois du dessert. Et moi, ça fait longtemps que j'ai pas été à la salle de sport. J'ai réussi à la tenir une seconde. Ensuite, la pauvre, elle a basculé dans la cheminée. Là, son mari, tout de suite, il a eu le réflexe. Il a pris la première bouteille qui lui tombait sous la main pour essayer de l'éteindre. Pas de bol, c'était du Grand Marnier. Oh, oh, la voisine, elle a flambé comme une crêpe. Depuis, maintenant, son surnom, c'est Suzette. C'est là qu'on a décidé de tout arrêter. Danse avec les stars, c'est bien mieux à la télé. Voilà.
Qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue, Chris Marquez?
Ah, moi, ils sont super. Moi, j'ai une... Je suis vraiment... Ça, c'est un de mes vrais plaisirs. C'est qu'en fait, il y a... On va se le dire, en 2011, personne ne me connaissait en France, à part maman et papa. et maintenant, en fait, partout où je vais, c'est mon petit village. Et ça, j'adore. J'adore, en fait, que dans la rue, n'importe qui, en fait...
Vous dites quoi?
Salut Chris, hey, comment ça va? T'étais vraiment méchant avec Pamela Anderson. Pamela, regarde, cette année.
Il y a eu un problème avec Pamela Anderson, vous étiez méchant avec elle, vraiment?
Non, mais paraît-il qu'en fait, dès que je dis un truc, il paraît que ça sort un petit peu... C'est un peu difficile à entendre
sec,
pour les artistes.
Vous êtes un peu sec.
Ouais. Oui, non, juste.
C'est même fait engueuler.
Les gens
n'ont
pas l'habitude d'entendre ces trucs.
Oui, Michel Sardou, vous a engueulé.
Oui,
vous
avez... Non, c'est... Alors moi, honnêtement, j'ai passé une soirée géniale avec Michel Sardou. Parce que quand on me l'a annoncé une semaine avant, je me suis dit, bah, je sais pas, est-ce qu'il a vu l'émission? Est-ce qu'il connaît le concept, etc. Et donc, je savais qu'on allait bien s'entendre à partir du moment où, pendant le générique de l'émission, donc on est lancé, on est maintenant à l'antenne. Et juste comme ça, je ne sais pas pourquoi ça me prend, et je me tourne vers lui. Michel, vous avez déjà regardé l'émission? Il me dit non. En fait, il se passe quoi là? Et là, on s'est éclaté toute la soirée. Et mais il était très sympa.
Et c'est quand il a rajouté qui êtes-vous et qui suis-je là, il y a eu panique.
Merci Chris Marquez d'être passé nous voir. Nous recevons un ancien petit rat au minois de chat, une étoile de la galaxie de l'opéra, une danseuse ultra douée, une chorégraphe talentueuse, celle qui envoie parfois des pics avec ses pointes. Ce midi, mademoiselle Marie-Claude Pietragala est notre invitée.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Bonjour Marie-Claude Pietragala.
Bonjour.
Nous avons le plaisir de vous recevoir à l'occasion du spectacle Lorenzatio. C'est un spectacle tiré de l'œuvre d'Alfred de Musset qui mêle le théâtre, la danse et les effets spéciaux.
Oui, alors c'est vraiment pour moi le symbole de ma compagnie, le Théâtre du Corps, parce que c'est un challenge, un pari de pouvoir depuis des années creuser sur la résonance entre le théâtre et la danse. C'est-à-dire que j'ai des artistes autour de moi qui sont comédiens et danseurs,
les deux,
mais
ouais.
On ne sépare pas la danse du jeu. Ces acteurs sont des acteurs qui jouent et qui dansent en même temps, ce qui est un gros travail sur effectivement sur le souffle, sur la voix, parce qu'il y a l'exigence du texte de Musset, ce drame romantique qui est une des plus belles pièces
de
Musset.
Ah oui, donc vous donnez vraiment le
ah oui tout le texte et tout
ah
le
oui,
texte.
Je croyais que c'était une adaptation dansée.
Pas du tout, c'est vraiment le texte de Musset et en même temps la danse est là pour peut-être parler de l'inconscient des personnages. C'est-à-dire qu'au moment où il n'y a plus de mots, peut-être que la danse permet une autre lecture de ces personnages.
Vous jouez quel rôle dans cette pièce ?
La marquise Chibo.
Ah, oui. Ma chère. C'est donc un spectacle avec des effets spéciaux. Et moi aussi, quand je danse, ça fait un effet spécial.
Ah ouais. C'est vrai.
On confirme.
De quel genre ?
Voilà. Je n'ai pas de
rythme. Bah, on peut le dire, ça pique les yeux.
Je suis à contre-temps. Ah. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, Marie-Claude
Pietragala ? Oui, mais on s'était déjà vu l'année dernière et je vous avais dit que ça se soigne tout ça. Mmh.
Et
effectivement, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas travaillé.
Si, j'ai essayé
de vacances
en discothèque, j'ai essayé, mais les gens me regardent quand je danse et rigolent.
Je suis sûre
que. Ils évacuent la piste.
Non, moi j'y crois pas. J'y crois pas. Je suis sûre qu'on reste 2-3 mois dans un studio.
Ah, 2-3 mois, oui. Vous
travaillez. 8 jours.
D'arrache-pied. 2-3 mois.
6 heures par jour, c'est
ouais,
ça ?
C'est ça.
Si vous pouvez même la garder plus, ça nous arrange.
Ah, elle est charmante, franchement.
Ouais,
ce serait un plaisir de travailler avec vous.
Vous avez déjà eu des cas désespérés, Marie-Claude Pietragala ?
Non, il n'y a jamais de cas désespérés. Non, franchement. Moi, je trouve que la danse est pour tout le monde. Après, ça semble bizarre ce que je dis, mais j'en suis persuadée. C'est que j'ai pu travailler avec des comédiens, des musiciens, des chanteurs. Je pars du principe que c'est le premier langage de l'être humain, le mouvement. Et qu'il faut arriver à trouver des clés, à trouver les mots pour que les gens
se débloquent, en fait.
Oui, complètement. Ah. Il n'y a pas de geste ridicule pour moi.
Oui.
Non, je vous assure.
Mais quand vous êtes en boîte, Marie-Claude Pietragala, vous lâchez sur la piste ou vous observez les gens ? Comment ça se passe ?
J'aime bien les observer.
Ah, vous regardez les manières névrosées de bouger parce qu'il y a des trucs.
Non, parce que on parlait de l'inconscient tout à l'heure des personnages, mais c'est ça. Hein, la danse, ça révèle des choses intimes de soi. C'est ça
qui
est formidable.
Oui, il y a des gens qui ont du bien du bassin et du coup on en tire des conclusions.
Oui, peut-être, oui.
C'est pour ça que je reste au bar, moi, en boîte de nuit. Moi, j'ondule du coude, moi, du coup.
Non, mais c'est très intéressant parce que là, je viens d'ouvrir une école, l'école du théâtre du corps, qui est ouverte à tout public. C'est-à-dire que je aussi bien aux professionnels que de gens qui aiment à Alfortville.
D'accord.
Et ce sont des gens qui aiment la danse ou qui veulent en faire leur métier, qui sont pré-professionnels.
Pas spécialement la danse classique, toutes les danses.
Toutes les danses. Et je vois des choses extraordinaires, moi, en improvisation, quand on travaille sur des thèmes, sur l'imaginaire, sur le rêve. Et voilà, donc c'est pour ça que je me dis que la danse, elle est accessible à tous.
C'est une école pour tout âge ?
Oh, ça
c'est
une école pour tout âge. Un stage. Vous ne faites pas des stages le week-end ?
Si, je fais des stages aussi.
Ah oui ?
Mais je vous dirai
quand. Et vous me prendriez ?
Mais bien sûr.
En stage de réinsertion.
Là, c'est bien une caméra discrète, en fait, pour qu'on puisse avoir les images plus tard.
Non, mais sans blaguer, hein. Vous êtes la bienvenue.
Est-ce qu'on pourra filmer
oui. Il y a des cours de barre au sol pour justement travailler sur l'étirement des muscles.
Mais elle va avoir du mal à se relever.
Vous êtes cruelle, quand même, hein, je trouve.
Je la verrais bien en pole dance, Anne Romanoff.
Mais j'aimerais bien prendre mes cours de pole dance.
Ah, mais non, mais je rêverais de vous voir, ça ferait... Là, on va faire des vues sur Internet. Hein. Là, ça va y aller. Hein.
Non, mais Marie-Claude...
Si, parce que moi, je pense que je serais bonne en striptease burlesque.
Non, mais vous savez, ce qu'on dit qui aime bien, châtie bien. C'est pour ça qu'on l'attaque.
De toute façon, le milieu de la danse est un milieu très dur, Marie-Claude Pietragala.
Oui, le milieu professionnel, oui. C'est un milieu dur.
Et vous avez dit justement, quand vous êtes devenue jury de Danse avec les Stars, vous avez essayé d'être bienveillante.
Oui.
C'est important pour vous, la bienveillance ?
Oui, tout à fait.
Mais pourtant, quand on vous voit, vous avez un physique un peu dur. Enfin, je veux dire...
C'est ce que tout le monde...
Non, moi, je trouve qu'elle a un physique doux, au contraire.
Ah, merci.
Quand vous souriez, vous avez l'air douce, mais quand vous souriez pas...
Il faut se méfier de l'enveloppe charnelle, c'est ça, il faut se méfier.
Mais, vous dites que souvent, ça vous a joué des tours, que les gens vous croyaient comme vous êtes brune.
Plutôt distante, les gens disaient plutôt froide, distante.
Et vous ressemblez beaucoup à Barbara aussi, on a dû vous le dire 600 000 fois. Vous avez jamais pensé faire un spectacle là-dessus ?
Si, j'y ai pensé. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Et puis,
elle ressemble plus à Barbara que Depardieu.
Oui, c'est vrai, mais bon.
Oui, mais elle a énormément de talent. Et c'est vrai que c'est compliqué de mettre Barbara en spectacle, dans un spectacle total. Bon, je me suis inspirée d'elle pour certaines choses. Mais
vous voyez, elle sa sœur physiquement, vraiment.
C'est très troublant. Même, j'ai vu des photos d'elle jeune et des photos, moi, où j'ai les cheveux courts, parce que j'ai pas toujours eu les cheveux courts comme ça. Et c'est vrai que c'est assez troublant. Ouais.
Oui, des gens qui l'ont connue ont dû être troublés d'ailleurs par cette ressemblance.
On s'est rencontrés vers la fin et c'est
avec
vrai qu'on avait ce projet de faire un spectacle.
Toutes les deux ?
Oui. Et puis ça s'est pas fait.
Vous vouliez la faire danser ou elle voulait vous faire chanter ?
Non, je pense que c'était une réunion entre la danse et le chant, quoi.
Elle aurait chanté, vous auriez dansé.
Pour moi, c'était une danseuse sur scène. Elle avait une façon de se mouvoir.
Féline.
Elle était incroyable. Elle on a l'impression qu'elle glissait sur la scène. Et puis cette conception du spectacle vivant que je partage avec elle. Cet amour du théâtre, des techniciens. de la lumière, du plateau, de tout ce qui se passe d'indicible. Quand on est sur scène, vous savez ce que c'est d'être sur scène. Et il y a une espèce de magie, d'inconnu, où tout semble possible. Et en même temps, c'est un endroit très privilégié. Donc, c'est... elle avait une philosophie de vie par rapport à son métier que j'adhère complètement.
Vous avez ces deux côtés, Marie-Claude Pietrec. Un côté à la fois comme ça dur, quand même, on sent une exigence quand même profonde d'artiste, oui. Et en même temps un sourire derrière tout ça.
J'ai toujours l'impression d'avoir gardé ce regard d'enfant sur les choses et sur les gens, mais en même temps avec un professionnalisme qui fait que ça peut effectivement perturber les gens qui sont en face de moi, parce que des fois ils me disent oh oui c'est il y a une espèce d'inconnu ou de mystère. Bon, j'en suis consciente, mais
moi, j'aurais adoré
je fais tout ce que je peux pour me soigner.
J'aurais adoré être une femme mystérieuse que moi. On me dit jamais que je suis mystérieuse. Par
c'est pas vrai.
Non.
Ah bon ?
Non.
Bon.
Que vous avez l'air mystérieuse.
Oui.
Mais c'est normal. Mais Anne, elle va chez le coiffeur, elle raconte sa vie, donc il y a rien de mystérieux.
Mais de toute façon, il y a toujours du mystère chez les artistes. Ouais. Donc Anne est une artiste, donc je pense qu'il y a une part de mystère en vous.
Ah oui, le mystère
évident.
Le mystère glacé, vous voyez.
Il paraît que quand vous êtes présenté à l'opéra, vous n'aviez pas les codes, tout le monde était en chignon, vous aviez un bandeau parce que votre maman ne savait pas qu'il fallait un chignon.
Ouais, non, j'étais un petit canard jaune, j'avais une tunique jaune alors que tout le monde était en rose. J'étais coiffée en bas parce que ma mère s'était dit, bon, je vais lui faire un super chignon très compliqué avec les cheveux en bas comme ça, avec les bandeaux. Je suis arrivée, elles étaient toutes avec les chignons hauts. Enfin bon, je me suis dit... C'est mal barré.
Ouais,
et en fin de compte, j'ai cultivé au fur et à mesure des années cette singularité, différence, et que j'ai toujours ressenti malgré, vous savez, ce classicisme et puis cette institution qui vous pousse à être un peu dans le moule.
Quand on danse tellement dans des chaussons, on a tellement mal aux pieds qu'on se met des morceaux de viande fraîche. Et que vous qui êtes végétarienne ou végane, comment vous avez fait?
Oui, d'accord, je vois où vous voulez revenir. Bon, moi, c'est une légende, ça. J'ai jamais vu, j'ai jamais fait.
Ah bon?
Voilà. Par contre, oui, je suis végétarienne aussi, donc ça m'aurait posé un problème si c'était s'il fallait faire ça.
J'aurais mis des pois chiches à la place.
Non, vous savez, je pense que tout métier qui travaille le corps est exigeant. Alors, on a toujours l'impression de dire que la danse, c'est dur, que c'est... Effectivement, c'est dur, mais on ne se pose pas la question pour un boxeur, un footballeur, quelqu'un qui fait des arts martiaux. Donc, moi, j'ai envie de garder de la danse, en tous les cas pour le grand public, cette image de plaisir et d'imaginaire,
d'exigence.
De poésie, de rêve. Ça, c'est de la cuisine interne. Ouais. C'est notre boutique interne. On travaille comme vous travaillez.
Voilà. Pas tellement.
J'en étais sûre. C'est pour ça que j'ai lancé la perche. Oh. J'étais sûre qu'il allait dire ça.
Marie-Claude Pietrec-Galla, vous avez été nommée danseuse étoile à 27 ans par Patrick Dupont.
Oui,
ça a été un souvenir...
Mémorable. Ce souvenir extraordinaire. Parce que, voilà, Nourieff venait de partir. Et il avait laissé une trace...
Vous admiriez beaucoup Nourieff aussi.
Je l'admirais beaucoup et c'est quelqu'un qui nous a, ma génération, qui nous a tout appris sur la danse. Et il venait de partir, mais j'étais nommée sur son Don Quichotte. Donc pour moi, c'était symbolique. L'arrivée de Patrick Dupont, que j'admirais, parce que je le voyais quand j'étais dans les petites classes de l'école, il était déjà grand et j'allais voir ses spectacles et il me faisait rêver. Et puis d'être nommée sur le Don Quichotte de Nourieff, ça c'était pour moi extraordinaire.
Et vous dites qu'une fois, donc, vous avez passé une audition devant Maurice Béjart, qui vous a retenu pour un ballet, vous êtes retrouvée à Bruxelles,
oui.
Devant toute sa compagnie, qui
oui.
était à l'époque le top de la...
Ah,
et ils étaient tous assis par terre, et vous deviez danser devant eux, et vous avez cru mourir ce jour-là.
Terrorisée. Parce que...
vous étiez déjà à l'opéra.
Oui, il faut remettre déjà le contexte, qui était Maurice Béjart, et qui étaient les ballets du XXe siècle, parce que c'était, même à l'opéra, c'était la légende Béjart, et quand on n'avait qu'une envie, c'est de pouvoir, interpréter ses ballets. Et moi, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on avait ces répétitions qui étaient à Bruxelles. Donc j'étais déjà dans le corps de ballet. J'arrive, je vois ses deux yeux bleus comme ça. Elle ne parlait pas beaucoup. M'a serré la main. Voilà. Toute la compagnie est arrivée. Ils sont tous assis face à la glace comme ça.
Pour vous regarder.
Croisés en train de regarder. Je me suis dit, mon Dieu.
Ils étaient combien? 20, 30, non?
Je ne sais pas, ils étaient une quarantaine. Quoi. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible. Où est-ce que je suis? Je crois que je préfère encore l'Opéra de Paris avec les étoiles, tout le décorum.
Est-ce que vous aviez la même tenue jaune qu'à vos débuts?
Non.
Non, ça va.
Non,
et alors
non, mais j'étais terrorisée. Et c'est vrai qu'il m'a dit une chose. On parlait de Barbara tout à l'heure. Et il m'a dit...
Maurice Béjart.
Vous avez les yeux de mon amie Barbara. Ah, vous imaginez, j'étais déjà angoissée. En plus, il me met ça dans la tête. Ah, ouais. Je me dis waouh. Et bon, ça s'est très bien passé. J'ai dansé et il m'a pris la main. Il m'a regardé. Il m'a dit bon, alors, on va tout recommencer.
C'est
et là, tout s'est éclairé. C'est-à-dire que c'était incroyable parce que ce que j'avais appris mécaniquement, ce qu'on m'avait appris par un maître de ballet, tout d'un coup, tout prenait sens. Tout ce qui, chaque mouvement, chaque geste était logique. Tout d'un coup, tout était...
Il vous a mis en confiance, en fait.
Oui. C'est quelqu'un qui mettait en confiance, qui travaillait
qui
sur les artistes.
Qui avait une bienveillance, justement.
Très bienveillance et qui aussi travaillait sur mesure sur les artistes. Il pouvait changer un ballet par rapport à un artiste, par rapport à un interprète. Donc ça, c'est moi ce que j'ai gardé de lui, d'ailleurs. C'est ce que j'aime, travailler sur les gens, sur l'humain. Et voilà, donc c'est des rencontres comme ça extraordinaires.
Fondatrices. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire avec Anne Romanoff. Alors.
Après qu'on vous êtes parti de l'Opéra, avec le Pietragala, vous avez dirigé les ballets de Marseille.
C'est ça.
Ça a été une expérience finalement pas si agréable que ça.
Alors c'était une expérience quand même fondatrice parce que dans le sens où je me retrouvais à la tête d'une institution, ce que j'avais jamais fait de ma vie. C'était dans un contexte un peu particulier parce que Roland Petit partait, emmenait tout son répertoire, c'est compliqué, il n'y avait plus rien, il a fallu tout recréer.
Et bon, les gens devaient vous dire tout le temps du temps de Roland Petit.
Exactement.
On faisait comme ça.
Ah bah, ça. Exactement, vous avez raison. On faisait ça, c'était tellement mieux. Et puis, en fin de compte, voilà, ça a été un peu compliqué parce que je pense que c'est, maintenant en y réfléchissant, c'est très difficile de prendre la succession de quelqu'un comme Roland ou quelqu'un comme Maurice Béjart, ou quelqu'un comme Nourieff, parce que
il crée une telle personnalité.
Oui, puis il crée un outil, une structure
adapté,
à leur image,
oui.
Adapté à leur image, ce qui n'était pas, j'avais pas la même personnalité. Donc ça a été en même temps très enrichissant et un peu houleux, on va dire que j'ai été dans la tempête à un moment. Mais ça m'a donné l'envie de créer ma propre compagnie, le Théâtre du Corps, et de me dire voilà, j'ai un espace de liberté, de création.
Vous êtes resté combien de temps au Ballet National de Marseille ?
Je suis restée 6 ans.
Et vous dites quand même que vous avez été victime de sexisme, parce qu'une femme qui dirige une compagnie, elle est forcément incompétente.
Oui, c'est sûr. À Marseille, en plus, c'était compliqué. Hein. Ma petite dame, comme elle me disait. Voilà.
Avec l'accent, ma petite dame.
Voilà, c'est ça. Et puis, c'est une ville qui est difficile. C'est une ville qui est difficile. Alors, certainement que j'ai fait des erreurs aussi. Hein. Je veux dire, on ne peut pas dire que c'est la faute des autres en permanence.
Bah, c'est-à-dire, c'était aussi un changement de vie radical. Vous êtes passé de statut d'étoile, finalement, qui s'occupe de rien, à responsable de compagnie administrative, artistique,
c'est
financière.
Ça, c'est ça. En plus, j'étais directeur général. Enfin, c'était très compliqué.
Vous aviez aucune compétence pour ça, en fait.
Alors, je me suis formée, évidemment, sur le tas. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidée, d'ailleurs, pour
votre
ma
compagnie,
structure.
Ouais,
puisque ma structure a 14 ans. Je la dirige... sur tous les fronts, d'ailleurs. Je le dirige aussi bien pour trouver du financement que dans la création pure. Donc, non, ça a été une bonne expérience. Maintenant, l'eau a coulé sous les ponts, donc je peux dire que c'est plutôt bénéfique. Quand on est dans l'œil du cyclone, c'est un peu moins agréable, quoi.
Je vous présente Jean-Philippe Visini. Il aimerait mettre sa fille à la danse, mais il y a des problèmes.
Non, elle s'est mise à la danse, là, avec un peu moins de réussite que vous, hein, pour l'instant. on croise les doigts. Donc, j'ai une fille de 14 ans qui, chaque année, s'inscrit à une nouvelle activité extrascolaire. Pour notre plus grande joie, elle a fait de la flûte, du saxophone, de la batterie, jusqu'au jour où on a reçu une lettre du syndic nous disant que ce serait bien qu'on aille habiter ailleurs. Ensuite, elle s'est inscrite au foot, ce qui nous a permis, ma femme et moi, de découvrir l'ensemble des stades de foot des Yvelines le samedi matin à 8h au mois de novembre. Tu te dis que finalement, tu regrettes le temps où elle massacrait la musique avec son saxophone. Mais c'est comme ça, les enfants, on les aime et on les encouragera toujours dans leur nouvelle passion. Et cette année, c'est la danse, voilà. Alors elle a commencé par le hip-hop, elle a fait du breakdance, vous connaissez ? Elle se met sur la tête et elle essaie de tourner. Elle s'entraîne dans le salon, devant la télé, et puis elle y arrive bien, hein ? Elle a même pas fait tomber la télé, hein ? Non, non. Par contre, les plantes, les enceintes, l'aquarium, tout est tombé. Et puis quand on a essayé de tout rebrancher, avec les pieds dans l'eau, la petite, elle s'est mise à faire 3 tours de plus. Ensuite, elle a voulu faire de la country. La country, il fallait acheter tous les accessoires du cow-boy.
Oui.
On a tout acheté. Elle y est allée une fois, ça lui a pas plu. Du coup, on a acheté pour rien un chapeau, un gilet en cuir et un cheval. Alors, le cheval, on le garde parce qu'avec l'augmentation du prix de l'essence, ça nous coûte moins cher de se déplacer à cheval. Ma femme aussi, elle s'est mise à la danse. Comme cet hiver, on compte partir aux Antilles, elle veut apprendre le zouk. Elle a trouvé un prof très sympa qui donne des cours particuliers à l'hôtel Ibis de la Porte de Versailles. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Je lui ai dit, mais j'espère au moins que tu progresses. Elle me dit, bah, pour l'instant, on n'a pas encore appris les pas de danse. Pour l'instant, on apprend juste à ressentir la musique. Ah, bah, c'est rassurant. Donc, Marie-Claude Pietragala, je vous tire mon chapeau parce que, contrairement à vous, dans notre famille, la danse, c'est pas inné.
Vous qui dirigez une école, Marie-Claude Pietragala, vous devez voir arriver des enfants qui ont des rêves pas en proportion avec leurs capacités aussi, j'imagine.
Oui, oui. Mais alors, c'est oui, parce qu'il y en a qui sont tout petits, hein, qu'on les prend à partir de 5 ans. Et mais c'est très étonnant de voir ce qu'ils arrivent à faire quand même.
Vous avez une fille avec votre compagnon et vous dites qu'elle en a marre de la danse, c'est ça ? Qu'elle en a marre de vos spectacles ?
Elle en a marre de nous entendre parler de danse.
C'est vrai ?
Ah oui, oui, oui. N'en peut plus.
Elle a 14 ans.
Ouais. Elle en fait. Alors, je ne sais pas si elle en fera pour son métier ou pour
son plaisir.
Elle
est douée, j'imagine.
Elle est douée, mais elle fait plein de choses. Elle fait aussi du kung-fu, elle fait du théâtre. Donc voilà, elle est ouverte sur les arts. Mais c'est vrai qu'à un moment, la danse, elle me dit... Là, on n'en peut plus, quoi.
Et c'était naturel pour vous de mettre votre fille à la danse dès son plus jeune âge ?
Non, c'était vraiment une volonté de sa part. Parce que je sais ce que c'est. Ouais. Et je sais que c'est difficile. Donc, alors, quand elle était toute petite, elle nous suivait dans les théâtres. Donc, elle voyait tout ce que ça pouvait avoir à son âge de magique. Mais quand elle nous a demandé de faire de la danse, c'est vraiment elle qui a voulu. Oui, oui. Non, j'ai pas poussé. Non, pas du tout.
Vous avez pas été voir les cours pour mettre la pression sur la prof ?
Oui, oui. Non, pas du tout. Alors, oui, ça aussi, on essaye. Il y a même son dernier examen, elle portait deux noms, Pietragala d'Oro, et elle a enlevé Pietragala.
Ah ouais ?
Oui.
Ça lui
elle
posait...
a dit comme ça, on ne saura pas que tu es ma maman, et on verra les qualités que j'ai, moi.
Parce qu'on doit attendre plus d'elle avec un nom comme le vôtre.
Peut-être, oui. Oui. Oui.
Donc, moi, c'était le contraire. Ma fille a fait la danse classique. Les gens étaient étonnés qu'elle danse bien. Vous dites, Marie-Claude Pietragala, que vous étiez maladivement timide quand vous étiez petite et que la danse vous a aidé à passer à travers tout ça.
Oui, j'étais une enfant qui avait du mal à parler, qui avait du mal à aller vers les autres, avec les autres enfants.
Vous étiez une enfant unique, timide, solitaire, qui vous inventait des personnages, des amis, des frères, des sœurs.
Oui.
Ça bougeait dans votre tête.
Ça bougeait déjà à l'époque, oui.
Vous parliez à des gens qui n'étaient pas là. C'est ça ?
Des frères, des sœurs. Mais c'est vrai que je rêvais peut-être à une autre vie. Et c'est vrai que j'étais très timide.
Et en même temps, vous dites très énergique. C'est-à-dire vous tourniez, vous courez, vous bondissez, vous étiez intrépide.
Oui, j'étais un bulldozer. C'est pour ça que ma mère m'a mis à la danse.
Pour vous calmer.
Pour canaliser un peu ce trop-plein d'énergie.
Je vous présente quelqu'un qui...
Je ne sais même plus quoi dire. Alors, Marie-Claude Pietragala, Lorenzaccio est un spectacle de danse tiré de l'œuvre d'Alfred de Musset. Je vous ai préparé une interview, tel bonjour d'Alfred. Je vous explique. Oui. En fait, je rappelle quand même qu'Alfred de Musset a écrit beaucoup de poèmes à des femmes, à Julie, à Joanna, à Laure, à Madame G, Madame M, Mademoiselle Rachel, à Georges Sand, et j'en passe. Tellement Alfred de Musset était un courtiseur. Et je suis certaine que s'il était un poète contemporain, il vous aurait écrit, Marie-Claude Pietragala. Je me suis donc inspirée de tous les poèmes à ces femmes pour vous poser des questions contemporaines.
D'accord.
Alors, Marie-Claude Pietragala, s'agissant de vos fans, l'un d'eux aurait pu vous écrire « Tu n'as pas répondu, même par un sourire, à ceux qui s'épuisaient en tourments inconnus pour mettre un feu de fange autour de tes pieds nus. » En d'autres termes, même quand un fan vous supplie, ce n'est pas de selfie, Marie-Claude Pietragala.
Si, bien sûr.
Si, quand même.
Ah, si.
Alors, donc, vous avez fait beaucoup de choses qu'on a citées tout au long de cette émission. Alors, comme dirait Alfred de Musset, « Il faut, dans ce bas monde, aimer beaucoup de choses pour savoir, après tout, ce qu'on aime le mieux. » Qu'est-ce que vous aimez le mieux ? Lui disait Alfred de Musset, les bonbons, l'océan, le jeu, l'azur des cieux, les femmes, les chevaux, les lauriers et les roses. Et vous, Marie-Claude Pietragala ?
Le rêve, l'imaginaire, la poésie, l'autre aussi, parce que c'est important quand on est créateur. Si on n'aime pas les autres, on reste enfermé en soi-même.
Et les soldes aussi ?
Les soldes, voilà, oui, pourquoi pas ? Bah, bien sûr.
Alfred de Musset disait « Arrive-t-il quelque bonheur ? Vite à sa mère, on le raconte. C'est dans son sein consolateur qu'on cache ses pleurs.
ou ça honte? Votre maman vous a beaucoup soutenue quand vous étiez petite.
Mes parents m'ont beaucoup aidée, beaucoup, beaucoup. Et bon, j'avais un papa qui n'était pas toujours présent parce qu'il rentrait le week-end à cause de son travail, mais ma mère était là tout le temps. Elle venait me chercher à l'école, elle m'emmenait dans les cours particuliers le soir. On rentrait des fois à 21h, 22h le soir et elle était toujours là les week-ends. Elle a été vraiment extraordinaire.
C'est un grand soutien.
Oui, oui.
Alors, je terminerai par cette phrase d'Alfred de Musset, Marie-Claude Pietragala. « Votre beauté nous ensorcelle, prenez-y garde cependant, on apprend plus d'une nouvelle en 10 ans. » Alors, que retiendrez-vous de vos 10 dernières années, Marie-Claude Pietragala?
Ah là là.
La Coupe du Monde de football, non?
Non, ça, c'est oui. Les tiennes, ouais.
Mais c'est vrai que c'est difficile comme question.
De faire un bilan.
Le bilan sur 10 ans, moi, je pars toujours du principe qu'il ne faut pas trop regarder en arrière et qu'il faut toujours continuer à avancer. Les joies de me retrouver sur scène, les joies de créer ma famille, mes amis... Et le temps passe, mais c'est toujours un... J'essaye de garder ce regard curieux sur les choses. Parce que je dis toujours que les arts, enfin, en l'occurrence la danse, est bien plus grande que les artistes. Donc il faut être humble là-dessus. Et il faut, voilà, il faut savoir la servir au mieux.
Merci Marie-Claude Pietragala.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Marie-Claude Pietragala, on a une tradition dans cette émission. Chaque jour, il y a une histoire qui est racontée. Elle a été commencée lundi par Dominique Besnéard, poursuivie mardi par Patrick Bruel. Et à vous de la continuer aujourd'hui pour les invités de demain et d'après-demain.
D'accord.
Vous allez écouter le début de cette histoire. Il faut piocher un mot.
Ah. Dans le...
Opéra. Opéra, ben voilà.
François Ier avait une sœur qui s'appelait Marguerite de Valois et qui était très douée parce qu'elle écrivait des livres. À l'époque, ce n'était pas courant. Hein. Elle faisait plutôt des enfants où elle mourait en couche, les sœurs des rois.
Oui, et d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait une sorte de taverne dans le 5e arrondissement, en haut de la rue Mouffetard, sur une place qui s'appelait la place de la Contrescarpe, exactement. Et c'est là qu'elle retrouvait l'un de ses amants, qui n'était autre que son cousin.
Et alors, avec son cousin, elle allait le soir à l'opéra voir des spectacles. Et en l'occurrence, elle aimait beaucoup, beaucoup la danse. Et donc, elle allait voir des ballets. Et elle imaginait, comme ça, en voyant ces danseuses étoiles virevolter, qu'un jour, peut-être, elle serait à la place d'une d'entre elles. Ouais.
Pendant plus de 40 ans à la télé, de Stade de Haut, Paris-Dakar. En passant par les JO, il nous a fait vivre les plus grands événements sportifs. Maillot jaune des commentateurs avec plus d'une trentaine de Tours de France au compteur. Il remonte en selle pour nous présenter son livre « Les 100 histoires de légende du vélo ».
Bravo.
Alors vive le sport et applaudissements pour Gérard Holtz. Ouais.
Merci Anne.
Bonjour Gérard Holtz.
Merci, bonjour. En ce moment, il y a un phénomène qui est plutôt sympathique, c'est que les gens me disent merci. C'est assez étonnant. Ils me disent bonjour et merci parce que mon fils a pratiqué le football, parce que ma fille fait de la natation. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui ne suis qu'un messager, je n'ai été qu'un messager, je n'ai jamais été un champion de quoi que ce soit, mais apparemment le message est passé, comme quoi le sport c'était bon pour le moral et pour la santé, et les gens me disent merci. Ça fait chaud au cœur.
Vous êtes heureux, Gérard Holtz.
Oui, je suis particulièrement heureux.
Là, vous allez jouer, vous avez des projets de théâtre à Paris?
Oui, déjà un spectacle que je suis en train d'écrire sur l'histoire de France.
Vous tout seul?
Tout seul.
Un one-man show.
Ouais,
wow.
Sur l'histoire, mais un très, très, très original. Voilà. Et puis peut-être reprendre une pièce que nous avons jouée il y a 30 ans avec Patrice Lafont. Ça s'appelle Le Visiteur de l'été. Qui est particulièrement intéressante. Il y avait Tiki Olgado qui jouait avec nous à l'époque. On avait joué à Sarlat et on va peut-être le reprendre ensemble. Ouais. Puis il y a encore une autre proposition.
Vous avez l'air heureux. C'est un peu énervant d'ailleurs.
Je pétille.
En couple, heureux, bronzé.
Mais vous avez raison, Anne. Ça énerve parce que ça rend presque jaloux. En ce moment, depuis que je suis revenu de Rome, de l'Italie, où nous avons vécu avec ma femme d'amour.
Muriel Mayette, dites son nom quand même, parce que ma femme d'amour, les gens ne savent pas qui c'est.
Oui, Muriel Mayette, donc, qui dirigeait la Villa Médicis. Je trouve qu'il y a une atmosphère en France de crispation. C'est vrai dans la rue, c'est
de
vrai
jalousie,
dans les relations sociales.
De jalousie, c'est
de
ça
jalousie.
Et vous, votre bonheur énerve les gens?
Oui.
Oui, mais moi, je suis pas malheureuse, mais vous m'énervez là. Vous avez trop un bonheur. Je suis heureux, je suis amoureux, j'ai plein de projets.
La recette. La
non,
recette.
Mais il t'énerve pas en réalité. Un, tu l'envies, c'est pas pareil.
Oui. La un,
si, m'énerve
avoir
peu.
Des rêves. Avoir des
ah
rêves.
Ah j'en ai des rêves.
Ça, là, ouais. Tout ça.
Tout le ouais. temps.
Tout le calendrier
tout
du Stade français.
Pour les réaliser.
Ah bah oui.
Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir en disant ah, j'ai, moi, je ne réussis pas, je ne fais pas le métier que je veux faire, je ne fais pas le sport que je veux faire, je ne suis pas amoureux, etc. D'abord, la chance, ça se provoque. Ça se provoque. Ah
oui. Non, mais c'est... pour l'amour, c'est compliqué quand même. C'est, on ne peut pas provoquer tout
si,
seul.
Il faut être provocante.
Si, non, mais il faut aller. Non, il faut aller. D'abord, il faut aller à la rencontre des autres.
Voilà. Ah, bah voilà. Ça, j'y vais, faut... moi. Je vais dans mais toutes sortes de cocktails. J'arrive, après, je vois qu'il n'y a personne. Je suis obligée de rester un peu.
Depuis déjà. Qu'une voyante lui a dit qu'elle rencontrerait l'amour dans un cocktail, mais elle oui. se tape tous les cocktails de Paris.
et elle va partir au bout de 5 minutes. Parce que...
Et il faut ouvrir son cœur. Il faut ouvrir son cœur. Il faut être dans une disposition d'esprit, où on regarde, et surtout, comme vous le faites là, dans oui. l'émission, bravo, merci, écoutez les autres. Voilà. Écoutez, c'est essentiel, savoir écouter les autres.
Parlons de ce livre, Gérard.
Oui, parlons. Parlons.
Gérard.
Qui est un cadeau idéal.
Gérard. D'ailleurs, vous n'avez pas un, nom, vous avez pas un prénom terrible quand on y pense.
Non, c'était pour Gérard Philippe, mes parents. C'était la grande époque de ce comédien formidable,
fabuleux. Mais vous avez embelli en vieillissant, franchement.
Ça y est.
Anne.
Ah, attention.
Je vais appeler Muriel pour savoir
vrai,
si...
Non, mais c'est vrai, vous êtes mieux qu'avant.
Mmh. Non.
C'est assis, c'est le côté, je sais pas, bronzé, poivre et sel.
Épanoui, poivre et sel.
Ouais. Alors, il paraît qu'en plus, il vous arrive un truc incroyable. Vous étiez au restaurant en Italie et il y a une femme qui vous repère pour être mannequin.
Oui. Alors, c'est un restaurant en France, en fait.
Il y a
France?
Combien d'années
ouais, c'était au Puce.
Là
ouais. Je vais au Puce voir le
Puce
stand.
Au Puce en France.
Le stand, oui, à Saint-Ouen, pour voir le stand de la fiancée de mon fils, justement.
Une nous des fiancées ou l'ex-fiancée?
Non, l'ex, oui. Juste d'accord. là. Bon. Et on déjeune. Et il y avait une Allemande qui était là avec un Italien qui déjeunait. Il y a une autre table que je n'avais même pas remarquée. Et apparemment, donc, sur ma tête, sur ma gueule, on va dire, comme dirait Johnny, elle a demandé ensuite au patron du restaurant qui j'étais et si elle pouvait me contacter. Mais elle ne me connaissait pas. Elle ne m'avait jamais vu à la télévision. Juste pour devenir mannequin pour Brioni, qui est une grande marque italienne qui habille James Bond. C'est Brioni qui fait les costumes.
Et donc vous êtes affiché dans le métro en Italie
Dans la boutique de Brioni à Rome. Il y a au moins deux boutiques. Et ailleurs, et puis dans le catalogue. Donc j'ai
donc
posé pendant une journée.
Vous êtes devenu mannequin à 72 ans.
Oui, à 72 ans.
C'est
ouais.
beau.
Et vous avez eu d'autres propositions
comme quoi, tout arrive.
Ah oui,
tout
vous
arrive.
Vous avez eu d'autres propositions de mannequin?
Oui, il y a Anne Romanoff qui m'a fait une proposition.
Hey, on veut savoir tout.
Notre invité Gérard Rolls nous parle de son livre Les 100 histoires de légendes du vélo qui vient de sortir aux éditions Grunt. Alors parlez-nous de ce livre en quelques mots, Gérard
Le
Rolls.
Cadeau idéal pour la fête des pères, déjà. Mmh. Le cadeau idéal pour la semaine prochaine.
Bah, si votre père aime le vélo, parce que sinon...
Le frère, non justement, il va le faire aimer. Ça va faire aimer le vélo, même à ceux qui ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce que ce sont des histoires, en fait. Il n'y a pas de palmarès, on ne va pas parler de qui a gagné. Mais en revanche, on va expliquer, par exemple, qui a inventé le vélo.
Ouais.
Ben, c'est pas Léonard de Vinci pendant
c'est,
très
c'est
longtemps.
C'est vrai que c'est avantageux comme cadeau. 19,95 €.
Voilà.
Et c'est copieux.
Et on
livre.
Connaît toute l'histoire du vélo avec ça, toute l'histoire des grands champions. Il y a beaucoup de femmes dedans. Et surtout, oui, bon, ça brasse la création du vélo. Par exemple, qui a inventé le pneu?
Ouais.
Michelin.
Non.
Non.
Ah bon. Non. Dunlop. Ah. Pour son fils. J'adore ce genre d'histoire. De John Dunlop, qui est un vétérinaire écossais qui vivait en Irlande, voit son fils qui n'arrête pas de tomber avec sa bicyclette parce qu'il avait des roues en fer. Ah oui. Il dit, il faut que j'invente quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Il prend du lin et du caoutchouc. Nous sommes en 1885. Et il lui invente le pneu Dunlop. Michelin, 5 ans plus tard,
le fait pour
inventera
les voitures.
Le pneu démontable. Donc ouais. les frères Michelin, c'est aussi génial.
Votre père, un jour, vous a acheté un vélo... dans une vente aux enchères, vous dites que c'est le plus beau cadeau de votre vie.
Bien sûr, j'ai toujours circulé à vélo. Mon bouquin, là, 100 histoires de légendes du vélo, chez Grunt, le cadeau idéal pour la fête
pour la
des
pères. Pour la fête des pères,
À 19,95 €.
C'est une déclaration d'amour pour la bicyclette. Moi, je trouve que la bicyclette, c'est une des plus belles inventions de ces derniers siècles-là. Parce que c'est la liberté, parce que c'est pas peu loin, parce que c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la santé, parce qu'on n'en fait pas assez. Paris, mais c'est épouvantable. Je reviens, là, les pistes cyclables dans Paris. Il n'y a pas moyen de garer bien son vélo, de le ranger quelque part à l'abri. Il n'y a pas comme aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a des parkings sur 2, 3, 4 étages pour les vélos, juste pour les vélos, devant les gares, devant les entreprises. Bref, c'est une déclaration d'amour pour le vélo. Et c'est vrai que je rêvais d'avoir un beau vélo. Et mon papouchka, mon père, me dit un jour, on va aller à la salle des ventes. Nous, dans notre jargon, c'était juste à côté de l'atelier de mon père, dans le Marais. Ça s'appelle chez ma tante. Ouais. Parce que les gens n'osaient pas dire qu'ils mettaient en gage hein, leur montre ou leur
bijou. Et donc, il y a ce vélo.
Je vois le vélo. J'ai dit, c'est pas possible. Et personne ne lève le doigt, sauf mon père. Et on l'a eu pour une bouchée de pain. Et il était bleu marine. C'était de la marque Rocher. Et je suis reparti avec. Alors, je ne suis pas reparti dessus parce qu'il était crevé. Et il a fallu le réparer. Mais oui, c'était l'un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais eu.
Quelque chose qui est très important dans votre vie, c'est le Téléthon, Gérard Rolls. Vous étiez à la création du Téléthon.
Oui.
En quelle année ?
En 1987, avec Claude Sérillon, qui est mon intime, mon copain. Et Michel Drucker, qui est venu nous rejoindre. Des familles d'enfants malades sont venues nous voir en disant « Jerry Lewis a inventé le Téléthon aux États-Unis, ça marche depuis 20 ans déjà ». Il tenait l'antenne tout seul, Jerry Lewis. Il pourrait être le parrain de la première édition. Est-ce que vous voulez le créer ? Et c'est vrai que c'était
en
très,
87,
très
ça. Et ouais. Depuis, ça s'est
et ça
pareil.
Continue et ça marche.
Vous êtes fier, ça c'est une fierté.
Très, très fier. Très, très fier.
D'avoir imposé ça, parce qu'il y a un moment où les gens voulaient que ça s'arrête, vous êtes battu.
Comme d'habitude, la jalousie, on en parlait tout à l'heure, la jalousie d'autres associations qui voyant cet argent qui va pour les familles des enfants malades, bien sûr. Et puis, oui, et puis ça a continué avec Sophie Davant, avec Nagui. On l'a fait pendant, pour moi, 13 ans. C'est une des grandes fiertés, ouais, de mon métier de messager, 44 ans de service public, et là c'était vraiment du service public.
Donc l'été dernier, vous avez pris votre retraite, Gérard Rolls.
Ouais.
Les coureurs vous ont fait
par amour,
petits...
donc.
Par amour pour votre femme.
Oui. Pour la suivre à Rome.
Et là, tout le monde vous a fait les adieux, c'était émouvant. Vous avez pleuré.
Ouais, bah oui, je pleure beaucoup.
C'est vrai.
Ouais, ouais. Je ne me gêne pas d'exprimer mes émotions, à la fois avec des superlatifs, vous l'avez entendu là.
Un peu excessif.
Voilà, parfois excessif, et on me l'a reproché parfois, oui. Et en même temps, oui, je.
Vous êtes
pour moi, un mec doit pouvoir pleurer exactement comme tout le monde, quoi. Et donc, j'ai pleuré, non pas parce que je quittais ce magnifique et cet extraordinaire travail. Mais parce que les hommages étaient incroyables, quoi.
Mais là, vous revenez.
Je reviens grâce au livre qui
pour
est
la fête des pères.
Les gens.
Non, mais vous revenez aussi au Tour de France. Vous allez faire...
Non, très peu. Non, je vais accompagner juste des invités. Je vais leur expliquer pendant 4-5 jours. Pour Tissot, qui est le chronométreur officiel, mm-hmm. Il me demande d'accompagner des invités, des champions, des championnes, leur faire découvrir les coulisses.
Et là, vous n'allez pas pleurer ce matin, Gérard Rolls ?
Ben, peut-être, parce que vous êtes tellement gentil.
Ah oh.
Ben oui. Mais oui.
Elle qui disait il y a 5 minutes, votre bonheur vous m'énerve.
Merci de passer
Anne.
Nous voir.
Mais c'est un plaisir.